Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction. L'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Clémentine Delay. Tenancière de bar et hominine non-binaire.
Généalogie pileuse.
L'hominine non-binaire, ou gender fluide, est une personne qui refuse de se définir strictement comme homme ou femme, soit parce qu'elle possède des attributs physiques particuliers, ou qu'elle n'accepte pas, par choix, de se conformer à un genre social au prétexte de tel ou tel sexe biologique, voire qu'elle aime jouer ou être fluide avec ce qui est caractéristique des constructions genrées.
Dans la classification du vivant, parmi les bilatériens vertébrés, seuls les mammifères sont dotés d'un système pileux. Sa densité et sa répartition sur le corps sont différentes selon les espèces. Lorsque l'ensemble du corps est couvert de poils, ils sont généralement désignés par le terme de pelage. Si les couleurs, les motifs ou le volume de celui-ci peuvent être parfois différenciés selon le sexe de l'animal, dans la plupart des cas, les éléments mâles et femelles sont également pourvus en pilosité. Chez les primates, c'est-à-dire les singes et les hominines, la pilosité n'est que très peu présente sur certaines parties du corps. Selon les cas, des espèces n'en ont pas du tout sur le front ou les fesses, mais sur le restant du corps. D'autres en ont sur les zones autour de la bouche et des yeux, mais pas sur le reste du visage. D'autres encore n'ont des poils que de manière irrégulière sur l'ensemble du pelage ou restreint à des régions précises. L'hominine, mâle et femelle, est un des mammifères ayant le système pileux le moins présent. Il se concentre au niveau de la tête, des aisselles et du pubis, où la densité pileuse est plus importante, contrairement au reste du corps, qui est généralement imberbe ou recouvert d'un fin duvet. Dans la plupart des populations d'hominines du globe terrestre, il n'existe pas de dimorphisme pileux entre mâles et femelles. Et les zones pileuses sont uniquement celles des cheveux, des sourcils et du pubis, alors que le restant de la peau est glabre. Chez certaines populations d'hominines matinées de néandertaliens, à Nice ou en Macédoine par exemple, le dimorphisme pileux existe, ce qui fait que, si les zones pileuses sont identiques, les mâles présentent plus souvent que les femelles des densités plus fortes sur les mollets, les cuisses, le pubis, le torse, les épaules et le dos. Idem pour les pourtours du visage. Les différences sont parfois importantes selon les individus. Des mâles sont dépourvus de pilosité, à l'exception des cheveux, des cils et des sourcils, alors que d'autres sont plus ou moins poilus sur des parties de leur anatomie. Les avant-bras, les tibias, le bas du dos et les fesses sont des régions corporelles pouvant présenter de plus grosses densités de poils selon les hominines. Pour des femelles, la situation est la même, mais dans une moindre mesure. Les nuances entre mâle et femelle sont telles que l'estampillage mâle pour un hominine n'empêche pas pour autant qu'une femelle puisse être plus poilue que lui. Pour les hominines femelles, vieillir s'apparente souvent au développement de la moustache et de quelques poils au menton. Presque aucune partie du corps n'échappe à la présence d'une petite touffe de poils isolés. Mais malgré ce qu'en dit l'expression « avoir un poil dans la main », comme les autres primates, les hominines mâles et femelles n'ont pas de système pileux sur la plante des pieds ni dans la paume des mains. En français, il existe un vocabulaire dédié pour désigner les régions pileuses du visage des hominines. Sur le dessus du crâne, les poils sont ainsi dénommés cheveux. Sur les arcades, sourcils, sur les paupières, cils, et barbe sur le pourtour de la mâchoire. Pour ceux au-dessus de la lèvre supérieure, il est employé le terme de moustache, lorsque le système pileux n'est pas très dense sur le menton ou les joues. Ceux qui dépassent du nez et des oreilles n'ont pas de nom particulier et, comme ceux des aisselles et du pubis, ne sont désignés que par leur localisation. Tout au long de son cycle de vie, chaque hominine perd et produit des poils en permanence. Inlassablement, ils tombent et repoussent au même endroit. La vieillesse est la cause principale de la diminution des zones pileuses et de leur densité, jusqu'à parfois s'arrêter complètement. La calvitie, c'est-à-dire la perte des cheveux, partielle ou totale, est un phénomène biologique du vieillissement, plus marqué chez les mâles. Mais l'éclaircissement général des régions pileuses du corps touche l'ensemble des hominines. Il est possible d'utiliser les mots de barbiche pour les vestiges d'une ancienne pilosité sur la mâchoire et couronne pour les cheveux, qui perdurent au-dessus des oreilles et à l'arrière du crâne. Si la pratique de faux cheveux pour remplacer ceux disparus, appelés perruques, est attestée, elle ne l'est pas pour les autres parties du corps hominine. À l'exception de la fausse barbe destinée au déguisement, pas de touffe de poils autocollante pour les cuisses ou le dos par exemple. Face à cette pousse permanente et aux impondérables biologiques, les hominines, selon les époques et les lieux, ont encadré socialement tout ce qui concerne les poils. Des rituels, des imaginaires et des pratiques se forment pour encadrer ce qu'il doit en être fait, dit ou pensé. Il n'y a pas d'universalisme du poil. En avoir peut être valorisé alors qu'ailleurs ils sont pourchassés. Des hominines en prennent soin alors que d'autres les cachent. Toutes les zones pileuses ne sont pas traitées à la même enseigne. Le plus courant pour les zones de pousse rapide que sont les cheveux et la barbe est la coupe régulière ou occasionnelle, soit partielle, soit totale. Les cheveux et la barbe sont mis en forme selon des critères individuels ou culturels, sculptés, parfois parfumés ou décorés. Même si elle est attestée depuis l'Antiquité, l'épilation du crâne, de la mâchoire et du cou est peu utilisée car douloureuse. Pour les autres zones pileuses, où les hominines les laissent aller à leur rythme ou bien elles sont épilées ou rasées pour ne plus être visibles. Le pubis et les aisselles jouissent parfois d'un traitement particulier, leurs poils pouvant être raccourcis ou taillés dans des formes spéciales. Contrairement à la plupart des bilatériens mammifères pour qui le pelage est encore une nécessité biologique, Pour les hominines, il est tellement réduit que son utilité est presque égale à rien. Si les cheveux sont des dissipateurs de chaleur pour le crâne, les cils et les sourcils une protection pour les yeux, si les poils pubiens et axillaires, c'est-à-dire des aisselles, sont des atténuateurs de frottement et des zones riches en délicieux phéromones, la pilosité du reste de l'anatomie des hominines est un reliquat génétique propre à chaque individu.
L'hominine, épigone du singe, dépouillé des guenilles sous lesquelles la honte lui fait cacher son pitoyable corps pelé, avec quelle sollicitude il entretient les rares vestiges de son pelage. Ladislav Klima, Le monde comme conscience et comme rien, 1904.
Généalogie hominine.
Clémentine Clateau naît le 5 mars 1865 au lieu-dit l'Abbaye, à Chaumousset, un petit village vosgien peuplé d'environ 500 hominines, à moins de 10 km à l'est d'Épinal. Elle est la troisième et dernière née du couple d'agriculteurs Joseph Clateau et Marie Jehun.
Ma jeunesse fut celle de toutes les filles de la campagne, obscure et laborieuse. J'avais une belle santé et le travail ne me fait pas peur. Je peux vous assurer qu'à 18 ans, ma lèvre supérieure s'agrémentait déjà d'un duvet prometteur qui soulignait agréablement mon teint de brune. À 20 ans, j'étais aussi belle que robuste.
Elle se fait raser par le barbier 3 fois par mois. Manifestement, elle est androphile. L'androphilie est l'attirance sexuelle pour des hominines mâles, ou les signes de la masculinité, quel que soit son propre sexe ou genre. La gynophilie est son équivalent pour les femelles et la féminité. L'ambiphilie est le mélange des deux. Ces termes sont des alternatives à hétérosexualité, homosexualité et bisexualité, qui définissent les personnes selon leur sexe et leur genre, et non simplement le type d'attraction sexuelle qui est le leur. En 1885, elle épouse Paul Delay, de 10 ans son aîné, boulanger dans la petite ville de Thaon-les-Vosges, où le couple s'installe. Clémentine Clateau, désormais Delay, est vendeuse dans la boulangerie. 7 ans plus tard, elle ouvre un café mitoyen de leur boulangerie.
J'étais une femme de poids. À 30 ans, je pesais 80 kilos. À 40, j'approchais les 100.
La pilosité sur son visage est telle qu'elle nécessite maintenant d'être rasée quotidiennement. De constitution physique solide, Clémentine Delay épaule son mari, qui, perclus de rhumatisme, doit arrêter la boulangerie. Elle se consacre dorénavant seule à gérer le bar.
Dans mon café, je n'avais besoin de personne pour faire la police. Quand un individu essayait de me manquer de respect, et qu'un premier avertissement ne lui suffisait pas, je l'empoignais d'une main par la nuque, de l'autre par le fond de son pantalon, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il était dehors.
Dans ses « Mémoires de la femme à barbe », elle relate plusieurs anecdotes où elle doit sortir un client un peu trop agité. De l'ivrogne violent au jeune apache et sa lame de couteau, en passant par le gendarme trop insistant. Bonne vivante, elle se passionne aussi pour la pêche à la ligne, le vélo et la petite ménagerie qui vit avec elle. Une volière d'une centaine d'oiseaux, 2 perroquets et une demi-douzaine de chiens. Lors d'une balade en 1901 à la foire de Nancy, avec quelques-unes de ses amies, Clémentine Delay découvre le stand où est exhibée la femme à barbe. Elle décrit un visage aux traits masculins, grossier, des poils en bataille clairsemés, qui ont mis trop longtemps à pousser. La pseudo-phénomène de foire lui fait remarquer, à juste titre, qu'elle est bien plus dotée en poils qu'elle, et lui conseille une méthode infaillible pour se débarrasser définitivement de sa barbe. Clémentine Delay prend note de cette recette, qui lui épargnerait
l'ennuyeux secours du rasoir.
De retour de la foire, et en réponse à ses commentaires désabusés sur la femme à barbe, un de ses clients du bar lui propose un pari. 500 francs si elle arrête de se raser et se laisse pousser la barbe. Clémentine Delay se prend au jeu et accepte.
Les arbres sont... sont des messagers venus d'un royaume étranger. Et les nuages sont les songes des octopus et des éponges. Le ciel est un orchestre blanc aux vacarmes assourdissants. Le ciel est un orchestre noir allumant les amours d'un soir. La nuit est une femme à barbe. Venue disparant ou de temps.
Le café de la femme à barbe.
Malgré les réticences de ses parents et de son mari, Clémentine Delay ne se laisse pas dissuader. Elle se cache pendant les 15 premiers jours de la pousse de sa barbe et hésite à se montrer dans son bar de crainte des moqueries.
Une barbe de 15 jours n'est pas belle à voir, mais à mesure qu'elle grandissait, je la voyais prendre tournure. Le poil d'un impeccable châtain, comme mes cheveux, s'ondulait mollement. Mon mari prenait plaisir à me le caresser, et moi-même, je ne voyais pas ce nouvel ornement de mon visage sans une coquetterie amusée et satisfaite.
L'accueil enthousiaste qu'elle reçoit d'un de ses amis de Nancy, de passage à Taon, et sa proposition de faire imprimer des cartes postales encouragent Clémentine Delay à assumer pleinement sa nouvelle barbe. Les clients se pressent dans le bar pour venir s'émerveiller de cette véritable femme à barbe. Aux hominines du village se succèdent celles venues de Nancy ou d'Épinal. Les militaires en garnison dans les villes alentours se pressent d'y venir boire un coup d'absinthe lors de leur permission. Même le roi de Perse, en passage à Contrexéville en 1902 et 1905 pour des cures, demande à recevoir Madame Delay, la célèbre femme à barbe. Elle est invitée à dîner au restaurant du casino de la ville, où le chat lui offre une broche en or et une photo de lui dédicacée. Lui a-t-elle en retour donné une de ses rares cartes postales ? Laquelle ? Seules des recherches dans les archives de cette ancienne famille royale d'Iran permettraient de lever ce mystère, en espérant qu'elles n'ont pas été confisquées après son renversement en 1979 par la Révolution des Barbus.
Mon café ne désemplit plus. Tous les Taonais voulurent le voir le lendemain. De nombreux curieux vinrent des environs et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre qu'il y avait à Taon une femme à barbe telle que jamais on n'en avait vue. Ce que j'avais craint, surtout en me montrant, c'était les moqueries de mes compatriotes. Ceux-ci, au contraire, semblaient plutôt fiers de moi.
En quelques mois, la vente de cartes postales est un vrai succès. Sur les photos, Clémentine Delay pose dans différentes robes élégantes, en intérieur ou dans un jardin, avec une barbe magnifique, frisée, fournie, qui s'épanouissait en un double panache sur sa poitrine. La notoriété amène des clients dans son bar et les cartes postales sont un complément économique. Elle refuse en 1902 la proposition alléchante financièrement qui lui est faite d'une tournée d'exhibition aux États-Unis d'Amérique, préférant rester à Taon pour prendre soin de son mari souffrant. Grâce à l'argent des cartes postales, elle lui offre un petit poney avec un attelage pour qu'il puisse se déplacer, puis un jardinet pour se reposer. Il pleura de joie. La devanture du bar est repeinte et il est renommé « Café de la femme à barbe ». Star locale, elle est contactée pour participer à une soirée au profit des œuvres de bienfaisance lors de la foire d'Épinal de 1903.
Entrée sensationnelle de la femme à barbe de Taon dans la cage au lion,
annonce l'affiche. Un train spécial est affrété pour amener les hominines de Taon à Épinal, où plus de 2000 hominines attendent l'arrivée de la célèbre Madame Delay.
Gloire, vanité, suggestion. Je ne saurais vous dire, mais je n'étais plus la même. Il ne me vint même pas à l'idée qu'à ce moment, je ne pouvais être qu'une femme curieuse exhibée par un barnum. J'étais beaucoup plus et beaucoup mieux. Beaucoup mieux, certes, qu'un ministre. Beaucoup mieux qu'un roi. Je ne perdais pas un pouce de ma taille. J'étais coiffée d'un petit canotier, perché au-dessus du bourrelet de mes cheveux, comme c'était à la mode en ce temps-là. J'avais une longue jupe cloche, garnie de volants, froufroutante. J'étais belle et j'entendais les murmures d'admiration des hommes.
Aux abois, tire des balançoires, manège de chevaux de bois, et j'entends l'histoire d'un type un peu fou qui, dans la nuit noire, me dit l'air très doux. Je suis le fils de la femme poisson, ma tante était femme à barbe, mon grand-père était homme tronc, mon frère est dompteur de lion. Ah, ah. Et mon cousin tient une maison de plaisir près de Tarbes. Il en a deux près de Toulon, où ce qu'on joue de l'accordéon. Voyez, ils ont tous une belle situation, mais moi je ne suis que le fils de la femme poisson. J'aime et j'en suis bête, quel horrible amour. J'aime la femme sans tête et je lui dis un jour, écoute-moi mon âme, ne sois pas têtu. Mais l'étrange dame vite m'a répondu, tu n'es que le fils de la femme poisson, ce n'est pas assez, je le regrette. Ton grand-père était homme tronc, ton frère est dompteur de lion. Ha, ha. Moi, je veux un type qui ait du pognon pour n'en faire qu'à ma tête. Je veux une maison, des manteaux de bison, des chapeaux, des combinaisons. Repasse un jour si tu as une situation, mais maintenant tu n'es que le fils de la femme poisson. Depuis je me délabre, je fais tous les métiers, avaleur de sabre, danseur et charcutier. Mais j'ai beau me débattre, rien ne me réussit. Ma vie est saumâtre, car toujours je suis le fils de la femme poisson. Ma tante était femme à barbe, mon grand-père était homme tronc, mon frère est dompteur de lion. Ah, ah. Et mon cousin tient une maison de plaisir près de Tarbes. Il en a deux près de Toulon, où ce qu'on joue de l'accordéon. Voyez, ils ont tous une belle situation, mais moi je ne suis que le fils de la femme poisson.
Enhardie après cette première prestation qui se termine bien, Clémentine Delay réitère quelques semaines plus tard à Saint-Dié et à Charmes, où elle boit du champagne en cage avec le dompteur et les lions se couchent à ses pieds. Enfermée ainsi dans la cage, elle vend de nombreuses cartes postales d'elle.
Avec ma jolie barbe en éventail de 35 cm de longueur, elle aurait pu en avoir le double mais je la taillais en coquette que j'étais, avec ma stature puissante, je pesais presque 100 kilos, vigoureuse et forte comme pas une, un désir me hantait, m'habiller en homme.
Pour cela, il faut faire une demande officielle auprès du ministère de l'Intérieur. En effet, depuis une loi de novembre 1800, dite de permission de travestissement, le port du pantalon pour les hominines femelles est soumis à interdiction et une autorisation dérogatoire peut être décrétée au cas par cas. Confiante en sa popularité, Clémentine Delay fait des démarches en 1904 auprès de divers fonctionnaires pour qu'ils interviennent en sa faveur, mais aucun ne daigne donner suite à une demande qu'il juge incongrue. Elle s'adresse alors à Arnaud Lederlin, maire de Thaon et industriel paternaliste spécialisé dans le textile, qui appuie l'obtention d'une autorisation de travestissement en écrivant à Émile Combe, le ministère de l'Intérieur. Quelques jours plus tard, début mars 1904, l'autorisation arrive à Épinal par télégramme. Dans son nouvel accoutrement, elle part direction Paris, où elle découvre avec amusement les joies de l'ambiguïté ou les avantages d'être considérée comme un hominine mâle. De nouvelles photographies sont réalisées pour des cartes postales la montrant habillée comme un homme, lisant le journal, fumant de cigares ou buvant une bière, ou faisant du vélo. Pour autant, Clémentine Delay ne se considère pas comme un phénomène, mais simplement comme une femme avec une barbe.
La nature qui m'a donné une barbe vigoureuse, du plus beau châtain, d'une pousse rapide et ondulante, ne m'a marchandé aucun des avantages de la femme. Vous le voyez, je ne suis pas un phénomène si, par ce mot, vous entendez un être hermaphrodite relevant du domaine de la pathologie. Ma photographie vous prouvera de plus qu'à une excellente santé, je joins un physique qui n'a rien de désagréable. Qu'il me suffirait de raser ma barbe ou d'employer quelques pattes épilatoires pour n'être plus qu'une femme saine et robuste, d'une anatomie irréprochable et qui, toujours, fut coquette, sensible aux multiples attentions du sexe fort. La barbe n'est pas, chez moi, le tribut d'une imperfection de la nature. Elle est un agrément qui s'ajoute au sexe, et c'est ce qui fait la rareté de mon cas.
Juliette avait Roméo, Napoléon son chapeau, Henri IV un cheval blanc, Dracula ses dents, la Bretagne à ses menhirs, la Joconde à son sourire. Jeanne d'Arc a des moutons et moi j'ai de la barbe au menton.
Alternant comme bon lui semble les tenues masculines et féminines, et vivant d'éphémères moments de gloire, Clémentine Delay mène néanmoins une vie humble et travaille dur dans son bar.
Je n'étais pas ambitieuse. Je me contentais du produit de la vente de mes cartes postales, sans rien changer à mon existence.
Alors que la guerre de 1914 vient d'éclater, elle se rend à Biarritz avec son mari afin qu'il profite du climat propice à ses rhumatismes. Arrêtée par un gendarme qui trouve suspect de voir un hominine femelle avec une barbe, le couple se prend quelques coups et des insultes fusent, les accusant d'être des espions. Reconnue par un militaire ayant été en garnison à Épinal, Clémentine Delay est relâchée ainsi que son mari malade qui lui est rendu
plus mort que vif.
De retour à Thaon, le café fonctionne pendant toute la période de la guerre et Clémentine Delay donne la main à la Croix-Rouge en accueillant des blessés chez elle. Le village héberge un régiment d'artillerie à l'hiver 1916-1917. Ne supportant plus de voir les simples soldats subir le froid de l'hiver et les officiers être au chaud dans son café, Clémentine menace de les mettre à la porte s'ils n'obtiennent pas que cela change.
Aussi vrai que je suis la femme à barbe.
L'interdiction faite aux soldats d'entrer de jour dans les cafés de Thaon est levée. Quelques jours plus tard, un ordre supérieur vient rétablir l'interdiction. Une courte pause pour les poilus. Au sortir de la Première Guerre mondiale, le couple Delay adopte Fernande Petit, alors âgée de 4 ans. Née en novembre 1914 à Igné, une commune voisine de Taon, elle est la plus jeune fille de Charles Petit et Albertine Godon. Le décès de ses parents en 1918 de la grippe espagnole fait d'elle, ses frères et sa sœur, des orphelins. Elle est alors accueillie et officiellement adoptée en 1919 sous le nom de Fernande Delay. L'état de santé de Paul Delay ne cesse de se dégrader et ses rhumatismes l'empêchent d'avoir la moindre activité. Expropriée pour des raisons de réaménagement urbain en 1922, la décision est prise de quitter Taon pour s'installer à Plombières-les-Bains, une petite ville thermale au sud d'Épinal, réputée pour les bienfaits de ses eaux sur les rhumatismes. Le café de la femme à barbe est fermé et Clémentine Delay ouvre une boutique de lingerie à Plombières.
Vous ne trouvez pas dans toute la foire un phénomène plus surprenant que ce barbe qui fait ma gloire. Vous pouvez toucher, ne craignez rien, ça vous restera pas dans la main. Touchez, voyez que ce n'est pas des primes et ça ne vous coûte que 10 centimes. Entrez, bonne d'enfants et soldats, sachez, moyen de faire tout sera. On pourrait plutôt voyer un arbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe. Je trouve qu'au sujet de cet ornement, les hommes ont l'âme un peu trop fière. Je suis qu'une femme, mais cependant, moi j'en vaux 6, demandez à Pierre. Hier, l'Hercule d'en face, un agneau, qui est jaloux de moi comme un taureau. Aussitôt qu'un civil me lorgne, au nom d'un chien, comme il vous cogne. Entrez, bonne d'enfants et soldats, sachez, moyen de faire ployer ça. On pourrait plutôt ployer un arbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe. Les sergents de la garnison me font parfois la galanterie m'offrir un canon sans façon. Mais je vais pas avec l'infanterie. On a de la barbe, mais de la pudeur. Je suis une femme et pas un sapeur. Je pleure celui qui aurait l'impudence, pas respecter ma corpulence. Entrez, bonne d'enfants et soldats, les hommes grêlés ne paieront pas. C'est pas de la chair, mais c'est du marbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe.
Connue dans l'univers protivophile pour être la ville de l'accord secret de 1858 qui donne le comté de Nice à la France, Plombières-les-Bains l'est surtout pour ses thermes, dès l'Antiquité romaine. Le magasin des Delay est ouvert près de l'église. En plus des soieries et des dentelles, Clémentine Delay continue à vendre ses cartes postales. Sa notoriété lui attire une clientèle régulière, autant pour le magasin que pour les cartes. Les séjours de Paul Delay dans plusieurs villes thermales ne viennent pas à bout de son mal, qui provoque d'intenses douleurs. Paul Delay, le discret mari de Clémentine, dont on ne sait presque rien, et dont on ne dispose que de quelques rares photos, meurt en 1928. Âgée de 63 ans, Clémentine Delay est très affectée par cette mort.
Si robuste que soit ma santé, mon deuil m'avait trop affectée et je tombais malade. Qu'était devenue la Clémentine de jadis ? Au pays, on me croyait perdue. Mais ma robuste constitution a repris le dessus. Et aujourd'hui, ma barbe est plus belle que jamais.
Reprenant du poil de la bête, Clémentine Delay et Fernande, maintenant adolescente, retournent à Taon. La femme à barbe et son café sont de retour. Situé au 19 de l'actuelle rue des Fusillés, le Palace Bar organise à partir de 1929 des concerts tous les dimanches. L'absinthe et les cartes postales se vendent très bien. Depuis le début, plusieurs milliers de cartes postales ont été imprimées, avec plus de 80 photos différentes. La notoriété et la personnalité de Clémentine Delay attirent toujours autant. Son veuvage est propice à la laisser s'imaginer voyager un peu. Après avoir refusé pendant des années, car Fernande était encore trop jeune, celle-ci, devenue jeune adulte, Clémentine Delay accepte la proposition de l'Olympia de Londres en 1932.
Des exhibitions à mon âge ? Pourquoi pas ? Une femme qui a de la barbe au menton ? Et quelle barbe, 33 cm, n'a que l'âge qu'elle veut bien paraître.
La balade de la femme à barbe. Malgré une méconnaissance totale de la langue anglaise, Clémentine Delay et sa fille partent pour la Grande-Bretagne avec en poche un contrat de 6 semaines à l'Olympia. N'ayant pas fait faire de passeport, elles sont provisoirement inquiétées à la frontière, mais l'intervention d'un douanier français qui se porte garant de leur identité débloque cette situation. Arrivée sur place, elle entend garder son autonomie et loue une pension pour la durée du voyage londonien. Toutes deux se réjouissent de cette balade, et les exhibitions sont un succès. De midi à 11h du soir, Clémentine Delay travaille dans un salon où étaient réunis quelques phénomènes. Déclinant une proposition pour l'Irlande, elles repartent en France. Direction Paris. Un contrat de 3 mois à partir du 15 avril 1932 est signé avec le grand parc d'attractions parisien Luna Park. Elles se montrent dans ses tenues coquettes ordinaires, discutent avec les hominines de passage et vendent ses célèbres cartes postales. Clémentine Delay y fait la rencontre de Violetta, la célèbre femme tronc.
J'avais pour compagne une femme tronc. Fort agréable, mais qui parlait allemand. Son visage était joli et elle m'était très sympathique. Je dus la défendre un jour contre les impertinences d'un visiteur. Cette femme, sans bras ni jambes, écrivait et cousait admirablement avec sa bouche. Son buste était de forme parfaite et sur son haut tabouret, on eût dit un mannequin animé, comme en ont les couturières chez nous.
Elle enchaîne avec un contrat au Théâtre Marigny à Paris jusqu'en septembre. L'année suivante, elle fait une saison à Vichy avec le soutien de Luna Park. Là encore, Sa venue déclenche l'enthousiasme et sa personnalité, la sympathie pour les hominines qui la découvrent. À l'occasion de son passage dans la ville, l'hippodrome instaure même un éphémère prix de la femme à barbe. Ville thermale où se pressent les hominines de pouvoir et d'argent, elle y croise le roi d'Espagne et celui d'Égypte qui veulent la rencontrer. En décembre 1933, départ pour l'Irlande pour un court contrat à Belfast. Clémentine et Fernande Delay sont ravis de ce voyage où la femme à barbe fut chaleureusement accueillie.
Si j'ai accepté quelques engagements de courte durée, c'est que j'ai à mes côtés une enfant chérie. Ma petite Fernande qui égaye ma solitude et me comble d'affection prévenante, toute filiale. Aujourd'hui qu'elle est pour moi une compagne et un mentor, je prends plaisir à sortir avec elle. Elle peut m'accompagner dans mes exhibitions et les voyages que nous faisons, toutes les deux, lui apportent une saine et intéressante distraction. C'est surtout pour elle que je me suis décidée à aller à Londres, à Paris, à Belfast, à Vichy, que je me sens capable d'aller encore jusqu'au bout du monde.
Après-demain, j'irai en enfer. Oh, croix de bois, grand frère. Je l'aime pas, ton sourire de cloche. Et je t'éclate très bien ta caboche. Après-demain, je vais en enfer. Oh, croix de bois, grand frère. Je suis la femme à barbe, celle qui pisse dans ton caniveau. Moi, la femme à barbe, ce que tu veux de moi dans ton beau métro. Il fait le coq pour nommer sa botte, mais elle est pas plus courageux qu'une fiotte. Quand il me voit, il regarde pas vert. Oh, croix de bois, grand frère. Il pavane un joli petit. Pour tes belles godasses, si je te dérange, ben il faut que tu ranges. Cache-moi là et tu me verras.
Sont pas beaux tes jolis petits mioches, grassouillesses, piquées comme des cloches. Je t'aurais mieux fait d'avoir un hamster. À croix de bois, quoi faire. Tu les tapes tes jolis petits mioches, parce qu'hier ils t'ont fait les poches. C'est sur eux qu'ils te passent les nerfs. À croix de bois, quoi faire. Je suis la femme à barbe. Moi, la femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ton beau métro? C'est moi, la femme à barbe, viens dans ma rue, c'est le carnaval. Moi, la femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ta capitale? Je suis la femme à barbe, celle qui pisse dans ton caniveau. Moi, la femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ton beau métro? C'est moi, la femme à barbe, viens dans ma rue, c'est le carnaval. Moi, la femme à barbe, est-ce que tu veux de moi dans ta capitale?
Entre le 11 et le 23 mars 1934, avec Paul Rambert, écrivain public et journaliste à l'Express de l'Est, elle rédige les « Mémoires de la femme à barbe » par Madame Delay de Thaon-les-Vosges. Elles sont sorties la même année à l'imprimerie Fricotel à Épinal. Lors de cette année 1934, Clémentine Delay part, toujours avec sa fille, aux Pays-Bas pour de courtes exhibitions. Les dernières. Presque âgée de 70 ans, et diminuée par les rhumatismes, elle ne peut plus voyager à sa guise. La mère et la fille s'installent alors dans un appartement à Thaon et vivent modestement des leçons de violon que donne Fernande. Est-ce en son honneur que la chanteuse Marcel Bordas reprend en 1935 la chanson « La femme à barbe » écrite par Élie Frébeau et interprétée en 1865 par Teresa, la diva du ruisseau. À la suite du mariage de Fernande Delay avec André Leclerc en 1938, Clémentine Delay déménage à Épinal, rue Saint-Gory, près de la place des Vosges, où elle vit avec le couple. Elle y meurt d'une crise cardiaque le 19 avril 1939, à l'âge de 74 ans. La presse locale et nationale relaie cette triste nouvelle pour les hominines de tout poil. 5 ans plus tôt, dans ses « Mémoires de la femme à barbe », elle s'amusait à écrire un court testament.
Et peut-être, songeant à ma dernière demeure, je me réjouirais du bon tour que je jouerais à Saint-Pierre quand, me présentant à lui, je lui dirais « Mon vieux Saint-Pierre, je parie 500 francs qu'il n'y a pas une barbe aussi belle que la mienne dans ton paradis. » Pour cet ultime voyage, m'habillerais-je en femme, en homme, On dit que les femmes n'entrent pas facilement dans ce bienheureux séjour. En tout cas, sur ma tombe, je veux qu'on inscrive Sigy, Madame Delay, la femme à barbe de Taon.
Fort heureusement, Clémentine Delay n'a pas tout misé sur ce non-événement qu'est la mort pour celui qui y succombe et sur l'illusion d'un paradis qui lui succède alors qu'il n'y a rien. Dans ses mémoires, écrites quelques années avant sa mort, elle donne des bribes de sa vie et rappelle sa plus profonde certitude.
Ai-je eu tort ou raison ? Si j'avais à recommencer ma vie, je n'y modifierais rien.
C'est Figaro qui jette un cri d'alarme. Oh là 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 là. Attention, attention, attention. Oui. Car plus avant moi n'emporte la barbe. Oh là 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 là. Se raser devient une obsession. Oui. Non. La 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 la. Triste vie, en vérité, la triste vie.
Pour les barbiers.
Qui n'ont plus rien à nous couper.
Qui n'ont plus rien à nous couper.
De toutes parts, on ne voit guère,
on ne voit guère
que des mentons,
nus,
comme des vers,
comme des vers,
des mentons nus. C'est dégoûtant,
c'est dégoûtant.
Mais où sont les,
mais où sont les
barbes d'antan, barbes en brosse ou barbes à frisette, barbes en pointe, en collier, en côtelette, barbes jusqu'au nombril,
barbes jusqu'au genou,
barbes bleues, barbes rousses,
barbes marées, barbes à pou.
À présent, c'est zéro. Oui.
Zéro.
Un poil de plus. Ses funérailles sont un événement régional et ses dernières volontés, concernant l'inscription de sa plaque tombale, sont partiellement respectées, mais précise bien qu'elle est la femme à barbe. Le souvenir de Clémentine Delay se dilue progressivement au fil des décennies. Depuis les années 1970, quelques rares livres lui ont été consacrés, ainsi que quelques documentaires. À l'occasion de la journée annuelle des droits des femmes, la mairie de Cap-Avenir, Vosges, anciennement Taon-les-Vosges, a décidé, en mars 2021, de baptiser l'auditorium de la ville du nom de Clémentine Delay. Pour la protivophilie, qui œuvre aux recherches sur F. Merjanov, et singulièrement pour le projet d'encyclopédie pour rien qu'est Wikimerja, le poil est primordial, lorsque l'on sait le prendre dans le bon sens. Dans certaines expressions, le terme « poil » est utilisé de manière similaire à « rien ». Il désigne soit l'absence, soit la présence, même infime. Être à poil a le sens de n'avoir rien. Et être à un poil, celui d'être très proche, d'être à rien. Une sorte de jumelage protivophile entre le hameau de rien et celui du poil.
Je ne suis rien, mais pour chacun de vous, je suis une bombe. Simon Radovitsky.
Tout sur rien est diffusé le 4e mardi du mois à 14h.
Radio Escapade 104.1, 102.0 ou 103.3. Elle est rediffusée le samedi suivant à 9h30.